Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International sur RFI. Bonsoir à tous nos auditeurs africains et puis tous les autres s'ils peuvent nous écouter eux aussi à travers évidemment les systèmes d'internet. Pour ce qui est en tout cas de nos auditeurs et ceux qui ont suivi la retransmission du match, eh bien vous le savez, la très belle soirée du PSG au Parc des Princes, 3 buts pour les Parisiens, 3-0, facile vainqueur d'un Real Madrid un peu amorphe, un doublé pour Angel Di Maria et un but pour Thomas Meunier. De quoi rassurer peut-être ce club, de quoi construire aussi sans doute, mais le PSG nous a tellement habitués à de belles prestations pour commencer qu'on va rester prudent dans nos analyses ce soir. En tout cas, souhaitons-leur de continuer, surtout pour ceux qui regardaient, qui applaudissaient des tribunes, qui s'emballaient, à savoir Neymar suspendu et Mbappé blessé. L'Atlético arrache le match nul face à la Juventus de Turin qui a longtemps mené dans son stade de Madrid. Mais Simeone a hurlé, harangué les supporters et conduit ses colchoneros à l'égalisation. Match très animé, très ouvert aussi de ces deux équipes, du spectacle. La belle performance de l'Olympiakos qui dans son stade a obtenu un match nul face à Tottenham. Mathieu Valbuena a signé cette égalisation face aux Spurs, finaliste de la dernière Ligue Europa. Des scores fleuves, vous l'aurez noté ce soir, 3 buts du PSG, 3 de City, 3 du Bayern, 4 de Zagreb. On y viendra donc les détails dans cette émission. Puis nous ferons allusion aussi à ces deux clubs français qui demain disputeront la Ligue Europa. Il s'agit du Stade Rennais et il s'agit de Saint-Étienne. Radio Foot, c'est parti.
Juan Bernat, David Di Maria,
André Di Maria,
olé.
Premier poteau sur ce ballon perdu par les Madrilènes. Et Juan Bernat qui récupère, qui centre premier poteau et qui surgit. André Di Maria, pied gauche. 1-0 pour le Paris Saint-Germain.
Thomas Meunier, pas très loin du poteau de corner avec Ganagay.
Oui.
Marquinhos, Ganagay à l'entrée de la surface de réparation qui donne son ballon à Di Maria.
Le but
d'Angel Di Maria. Il s'occupe de tout, Angel Di Maria.
Formidable. Il n'est pas en jeu, Thomas Meunier. Il va pouvoir trouver, décaler. Bien sûr, Bernat qui vient effacer. Il redonne à Meunier. Le but de Meunier. Oh, quel numéro ils nous ont fait. Meunier, Bernat. Et finalement, Bernat qui retrouve, ils ont joué véritablement avec Thibaut Courtois et avec la défense madrilène. Ce Real de Zidane complètement atomisé ce soir ici au Parc des Princes par le Paris Saint-Germain. 3-0, 90e minute.
Voilà, c'était Olivier Pron et Frédéric Suteau qui vous ont fait vivre ce match et qui nous refaisaient vivre les moments importants de cette rencontre, à savoir les 3 buts marqués par le Paris Saint-Germain. Et nous allons retourner au Parc des Princes, retrouver Olivier Pron. Mais d'abord, je vous présente nos amis du soir. Naïm Moniol, bonsoir.
Bonsoir Andy, bonsoir à tous.
Vous n'avez pas perdu votre voix, vous, pendant le match?
Ah non, pas du tout.
Il reste très stoïque, Naïm Moniol, même quand le PSG marque 3 buts dans le Parc des Princes en Ligue des Champions.
Vous n'avez pas vu comme moi alors, hein, parce que moi je le voyais battre des pieds, j'ai l'impression qu'il était tendu, hein, même à 2-0, alors qu'il nous disait ça va pas en face, ça se passe bien.
Ouais,
bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Bonsoir Franck. Alors, le tifo, faisons allusion à ce tifo des supporters du Paris SG, qui couvrait la tribune Auteuil, beau comme le match donc qui allait suivre. Olivier Pron, bonsoir.
Bonsoir madame.
Il y avait les principaux monuments de Paris sur une banderole, avec une banderole aux couleurs parisiennes sur la tribune Auteuil. Et puis, cette formule du club, bien sûr, et des supporters, Paris est magique. Ce soir, c'était le cas.
Oui, ce soir, c'était le cas. On aura l'occasion de revenir sur le non-match quasiment du Real Madrid. Mais Paris a fait son match. Et c'est ce qui compte pour le public du Parc des Princes. C'est ce qui compte pour l'ensemble de ce club. C'est toujours bien de démarrer ainsi une phase de poule de Ligue des Champions. Et c'est d'autant mieux de le faire face à une équipe qui a gagné 13 fois cette compétition. 3-0, c'est net et sans bavure. Vraiment, Paris a fait son match. Paris a totalement dominé de la tête et des épaules un Real Madrid totalement aux fraises.
Oui, et justement, cette équipe qui s'est retrouvée, hein, cette équipe qui a joué collectivement, eh bien, c'est ce que saluait Thiago Silva, le capitaine, ce soir, au micro de nos confrères d'RMC qui retransmettaient la rencontre.
On a très bien maîtrisé le match, on a très bien préparé ce match-là. On était efficace, on était solide. C'est ça qu'il faut le faire. Avec des caractères, avec des personnalités, on a fait aujourd'hui, on a réussi à faire bien. Et c'est pour ça qu'on a mérité de gagner 3-0. Mas eu acho que é um grupo solide, um grupo forte, essa fé da 25 jogos. Você passa o Lomão 11. Hoje, hoje, Mário Rosemont, du, ele é blessé e nem suspendido. Mas a demonstração dos outros que vão rentrer, c'était magnifique aussi.
Neymoniol, c'est ouais. Peut-être ça d'ailleurs qui peut leur donner de l'allant à ces Parisiens, un peu le moral, c'est qu'en plus, on peut le dire, en attaque, il manquait les meilleurs d'entre eux.
Ouais, c'est surtout ça, c'est qu'on est un petit peu inquiet parce qu'on se dit, bon, il y a encore une semaine, ils vont jouer sans Cavani, sans Mbappé, sans Neymar, ça se profile avec peut-être Choupo-Moting, peut-être Icardi n'était pas encore arrivé, Sarabia, donc on avait des interrogations sur le secteur offensif, puis finalement, on s'est rendu compte que le PSG, à défaut d'avoir des stars, avait un collectif, qu'il a fourni une prestation collective de très très haut niveau. Moi, j'ai vraiment été surpris, agréablement surpris de la démonstration tactique des Parisiens, que ce soit devant avec l'efficacité d'un Di Maria, que ce soit au milieu, le travail de Verratti, de Ganagay, de Marquinhos, l'apport des latéraux dans les couloirs qui ont été omniprésents. Et vraiment, on a vu une équipe concentrée, appliquée, rigoureuse, belle à voir jouer, efficace. Il manquait rien ce soir, à part peut-être une ou deux hésitations derrière de Kimpembe, mais globalement, on n'a pas été ni choqué ni inquiet de voir les stars dans les tribunes et pas sur le terrain.
Rien lâché du début à la fin. Rien lâché du début à la fin. Ouais. Et moi, c'est ce qui me frappe pour avoir vu le Paris Saint-Germain à nombreuses reprises ces dernières saisons. Là, on est face au Real Madrid et même à 2-0, il y avait un pressing qui a eu lieu de la première à la dernière minute qui a été extrêmement efficace. Ils étaient supérieurs dans tous les domaines. On aura l'occasion de revenir sur la performance XXL d'Idrissa Ganagay. Mm-hmm. Quel plaisir de voir ce Lyon sénégalais à un tel niveau à Paris. Vraiment énormissime à l'image de l'équipe. Vraiment, il n'y a rien à dire. Et le but de Meunier à la fin, il fait plaisir à tout le monde parce que ce garçon qui est remplaçant en normal, qui est là parce qu'il y a un blessé qui ne peut pas jouer et et il arrive à marquer, c'est quand même son troisième but en Ligue des Champions, ouais. Mais c'est comme un bonheur, une cerise sur le gâteau de le voir marquer à la fin.
Et j'ajouterai aussi le travail de Bernat, puisque tu parles beaucoup du latéral droit Meunier, qui est quand même impliqué sur deux des trois buts, qui a été omniprésent dans le travail offensif, qui a beaucoup combiné avec Di Maria, alors qui fait pas toujours tout bien dans le dernier geste, Bernat. Après, il est latéral, il est pas numéro 10, il est pas numéro 9, on lui demande pas de marquer des buts ou de faire des passes décisives.
Ce qu'il fait parfois même.
Ce qu'il fait parfois, mais je trouve que le travail qu'il fournit dans ses déplacements, dans ses courses, les relais qu'il apporte, c'est vraiment du très haut niveau, Bernat.
C'est vrai.
Franck Simon,
permettez-moi d'être la personne qui va peut-être pondérer tout ça. C'est vrai que la prestation ce soir, elle est fantastique. C'est une prestation qui est inattendue au regard de ce que cette équipe a proposé samedi soir déjà, samedi après-midi, où c'était lamentable.
Mais les supporters nous l'avaient dit, ils se réservent.
Non, les supporters, on les laisse, on est là pour analyser la rencontre.
Non, mais parce qu'on les a entendus dans la première partie de Radio
Bien
Foot,
sûr, mais les supporters, ils ont aussi leur, je dirais, ils ont leur fonctionnement, ils ont leur chouchou, ils ont aussi les joueurs qu'ils n'apprécient pas. Et nous, on doit être plus, je pense, dans l'analyse. Et l'analyse, c'est que ce qu'ils ont proposé samedi, c'était d'une indigence absolue, ça a été sauvé par un geste génialissime d'une personne qui n'était pas sur le terrain mais en tribune. Et je pense que ce qui est, si vous voulez, cette prestation, elle a été rendue possible par une condition physique pour ce match absolument incroyable. J'ai rarement vu une équipe parisienne, une équipe française aussi bien sur le plan physique. Mais jusqu'à la fin, parce que le dernier but, c'est ce que disait Naïm, c'est les deux latéraux, vous finissez le troisième but, c'est latéral gauche, deuxième passe D, pour le latéral droit. ils les ont bouffés physiquement. Donc c'est la condition physique, la préparation au service du collectif. Et on va pas mégoter. On aimerait revoir ça plus souvent et notamment en championnat parce que le PSG c'est toujours la même chose. On a souvent des prestations
aussi. Franck, le contexte aussi fait que tu sais que le PSG même en jouant sur une canne, il va la gagner la Ligue 1. C'est ça le truc. C'est toujours comme ça, même en étant mauvais, même en se relâchant.
Tu dois tes compétiteurs, tu choisis pas tes matchs.
Je suis d'accord.
Et là, c'est pour ça que je vous dis que j'essaye de pondérer parce qu'effectivement, je suis d'accord avec ce qu'a dit Olivier. Ce que j'ai entendu, ce que tu as dit, évidemment ce soir on va pas dire que c'était mauvais puisque ça a un caractère tout simplement exceptionnel et on aimerait que l'exceptionnel devienne presque de l'ordinaire parce qu'on se dit c'est possible, ils ont les joueurs pour, imaginons qu'ils aient les autres, tu le disais avant qu'on entre dans le studio, et s'ils avaient les autres peut-être qu'il y aura un déséquilibre.
En Ligue 1 ils seront exceptionnels contre Lyon. Ils seront peut-être exceptionnels contre Marseille.
Tu choisis tes affiches.
Mais c'est clairement ça.
Ça a toujours été comme ça
depuis plusieurs années.
Tu me permettras de dire que j'aimerais ce que j'ai vu là et qui enchante tout le monde. Quand on aime le football, on aime voir ça. Annie, on est d'accord. Hein. C'était super.
Totalement.
Et on s'est pas ennuyé un instant. Mais en même temps, là, on parle de la prestation du PSG. Peut-être que tout à l'heure, on va revenir sur le Real Madrid. J'ai eu la chance d'être consultant sur le dernier match du Real Madrid samedi. Ce sont des choses que je ressentais. J'aurais jamais imaginé que ça fasse plus 3 pour le PSG. Mais tu sentais dès samedi après-midi que ce Real est friable, qu'il est fébrile défensivement, que Courtois, il n'est pas à son meilleur niveau en ce moment. Mais ça, on le savait. On en a eu encore la confirmation. Bravo à eux. Maintenant, faut décortiquer, comme on dit, et ouvrir le capot, et puis regarder un petit peu là où ça peut encore s'améliorer. Oui,
ça n'est pas là où on les attend. C'est pas en Ligue 1 qu'on les attend. On sait qu'ils seront champions. Il a raison, Naïm. C'est vrai, Franck. On aimerait bien voir ce PSG flamboyant tout le temps, mais être flamboyant contre Dijon.
Mais Olivier,
sans manquer de respect,
Olivier, c'est ça les grandes équipes.
Les grandes équipes.
On est dithyrambique ce soir, et vous avez été obligé de prendre des pastilles au miel parce que vous aviez plus de voix, et ça se comprend. Mais ce que je veux dire, c'est que ce soir, ce qu'on a vu, on a envie de le revoir plus souvent. Et j'ai un peu peur qu'on le voit, comme il l'a dit Naïm, deux fois dans la saison, alors qu'ils sont capables de le reproduire
Franck,
à l'infini.
Franck, laissez-moi 30 secondes, s'il vous plaît.
Je vous en prie, Olivier.
Bien sûr, on est d'accord. Mais ce qu'on attend du Paris Saint-Germain depuis 7-8 ans que les Qatariens sont là, c'est de les voir briller en Ligue des Champions.
Bien sûr, c'est notre plaisir de les voir briller.
Et on espère qu'ils seront capables, surtout en Ligue des Champions, de reproduire ces matchs-là.
Alors, ça, c'est ça, on parle de l'automne.
Oui.
On parle de l'automne, on verra au printemps.
Laissez-moi terminer, je vous en supplie, Franck Simon. On dira du bien des gardiens de but si vous voulez après. Mais ce qu'on attend, c'est qu'ils soient brillants au printemps, ce qui n'a jamais été le cas. Ouais. Alors, c'est bien de commencer par être brillant en septembre. On souhaite qu'ils le soient tout le long de l'automne, évidemment. Mais après, on les attendra, et surtout nous encore, c'est une chose, mais les supporters les attendront à partir de février, des huitièmes de finale, voire des quarts de finale ensuite. En championnat, il y aura des bons matchs, il y en aura des moins bons. On verra dimanche ce que ça donne à Lyon, parce que c'est dès dimanche, Lyon-Paris-Saint-Germain. Mais pour l'instant, et cette saison particulièrement, on les attend en Ligue des Champions.
En même temps, quand même, cette prestation d'un très bon niveau, ça rappelle d'autres matchs qu'on produit quand même le Paris Saint-Germain, parce que moi, je me souviens du match aller quand même à Manchester, dont on a parlé. On se souvient du match qu'ils avaient fait à Liverpool. Il y a eu des moments comme ça où on croyait qu'on touchait un peu le Graal avec le Paris Saint-Germain.
Ouais, c'est sûr,
et puis derrière, ça ne suivait pas.
Je dirais quelque chose, Annie.
Est-ce que ça a changé alors?
Non, ça, on peut très bien voir un très grand PSG ce soir et un très mauvais PSG dans un mois contre Galatasaray.
Ou contre l'OL.
15
jours. Ou contre l'OL.
Il y a quand même un truc qu'il faut dire cette saison, c'est que souvent les grandes victoires du PSG ont été marquées par une grande individualité. Moi, je me rappelle que le match aller Manchester United, on avait vu un super Mbappé, par exemple.
Exact.
Je me rappelle qu'on avait vu un énorme Cavani lors du 4-0 contre le Barça. Là, moi, ce qui me fait plaisir et ce qui me frappe surtout dans cette prestation, c'est qu'elle est collective. On a dit les individualités ne sont pas là. Mais moi, j'ai vu tout le monde jouer. Ganagay, on va en parler quand on va se pencher sur son cas. Lui, il a bonifié tout le monde. Il a fait le lien entre toutes les lignes. Il a fait monter le bloc. Il était très bon. Mais les latéraux ont été très bons. Marquinhos Sensi a été très bon. Sarabia a été très bon. Il n'a pas tout bien réussi avec le ballon, mais dans l'intention, il a été très bon. Icardi, l'heure qu'il a joué, elle a été bonne. Il n'a jamais été vraiment en situation de marquer, mais il a été bon. C'est que collectivement, ce PSG-là, si tôt dans la saison, même si l'adversité n'était pas terrible, montrer cette feuille de match, cette feuille de route, ce qu'il était capable de faire, c'est suffisamment rare pour le souligner. Après, comme le disait tout à l'heure Olivier et Franck, faut que ça se reproduise en février, en mars, en avril. Mais que d'un point de vue collectif, que le PSG soit capable de se sortir d'un match pareil collectivement et pas sur un éclair de génie d'une ou deux individualités. Ça, c'est un fait majeur.
Ouais, Annie, on rappelle qu'il y a, on a rappelé dans le direct,
était pas là. C'est peut-être ça aussi.
On a rappelé dans le direct qu'il y a 2-3 ans, ils avaient commencé ici par battre le Bayern de Munich 3-0 et la suite n'avait pas été terrible.
Eh ben voilà, Olivier, c'est bien de le rappeler. Ouais. Effectivement.
Alors Olivier, arrêtons-nous sur quand même ce joueur, cet international sénégalais arrivé peu de temps, Idrissa Ganagay. On a vu la collade que lui a donnée Tuchel. Alors on connaît sa méthode, mais là il le montrait quand même aux autres camarades en disant c'est lui l'homme, c'est lui l'homme. C'est vrai que aujourd'hui. Ah, oui. Il était celui qui manquait sur le terrain et Verratti l'avait dit avant le match, ça va équilibrer, c'est ce qui s'est passé.
Ah oui, c'est ce qui s'est passé, mais il est énorme. Il a 3 poumons, il a joué comme une mobilette aujourd'hui, devant, derrière, partout. Il est passeur décisif. Et il est celui qui reste de longues minutes après le coup de sifflet final. Il est le dernier torse nu à haranguer les supporters. Il est là depuis un mois, il a tout compris, Idrissa Ganagay. Il est bon en dehors, il est bon sur le terrain, et c'est là où on l'attend. Il a été, voilà, on n'a pas accès à ses stats aujourd'hui, ses statistiques, mais elles doivent être énormissimes.
Faudra écouter Radio Foot demain.
A-t-il perdu un ballon? Je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'il en a gratté et qu'est-ce qu'il en a distillé des ballons? Vraiment, oui, c'était le chaînon manquant.
Franck, ancien joueur d'Everton.
C'est gentil, j'espère qu'Olivier Prom ne m'interrompra pas quand je vais être dit tyrambique. Quand je vais
être dit tyrambique
sur Idrissa Ganagay.
Il le dirait avec un petit sourire.
Mais oui.
Mais alors vous l'aviez déjà évidemment repéré dans le foot africain, mais en plus à Everton.
Mais oui. Et vous savez quoi, Annie? Même à Lost. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on est tous frappé d'Alzheimer avec ce brave Idrissa Ganagay qui a commencé dans le football français il y a bien longtemps
et qui a
finalement continué de progresser, de s'épanouir. Il avait déjà ça en lui. Après, c'est vrai que comment le fait d'aller dans un autre championnat en Angleterre, il a élargi sa palette. On a vu que c'était pas simplement un gratteur de ballon, mais qu'il savait aussi participer dans le jeu. Ah, oui. Et ce soir, c'était Rémi Bricard. C'est-à-dire, c'était un joueur qui pouvait jouer de tous les instruments. Et on s'est régalé, tout simplement. C'est du triple XL. Super content. Et en même temps, Home Orchestre. Bon, je te fais la passe.
J'adore Rémi Bricard. Quelle référence ultime.
Je suis un petit vieux, Olivier.
Deux choses sur Ganagay. La première, c'est on a beaucoup entendu les gens dire qu'il est recruté parce que le PSG a besoin d'un 6, d'une sentinelle. Aujourd'hui, il a joué 8. Il a même quasiment joué 10. Et on l'a vu plonger au point de pénalty et couper les trajectoires au premier poteau comme un 9. Il est très polyvalent et si Tuchel est intelligent, et j'aime à croire qu'il l'est, il l'utilisera peut-être beaucoup plus comme l'utilise Cissé avec le Sénégal comme un 8, comme il est utilisé en Angleterre comme un 6. Puis deuxième chose, moi je me rappelle quand il est arrivé, j'ai entendu certaines personnes sur la concurrence dire c'est bien gentil d'être bon contre Crystal Palace, mais le PSG c'est un autre niveau, la Ligue des Champions c'est un autre niveau.
Et tu te souviens qu'il disait il sera peut-être pas titulaire.
Ouais, voilà,
Alors qu'il n'y avait pas de milieu de terrain la saison dernière au PSG.
Et puis Tuchel a quand même fait venir Paredes pour 47 millions, même si c'est pas lui qui l'a fait venir. Je pense que ce soir, je vais rester poli, il a fermé quelques bouches, ça fait plaisir.
Ah, c'est clair.
Ça fait vraiment plaisir. Faut vraiment pas connaître le foot anglais, pas regarder la CAN ou pas connaître le foot tout court pour voir que Ganagay est un très bon joueur de foot. 6, effectivement, mais 8, surtout 8. Ganagay est un vrai joueur de ballon.
C'est l'homme de l'équilibre en sélection nationale et dans ses clubs respectifs. Là, au Paris Saint-Germain, c'est vrai, je ne sais plus qui a dit ça, je ne sais pas si c'est toi qui l'as dit, le chaînon manquant, mais c'est ça.
C'est
Olivier qui l'a dit tout à l'heure. Voilà, rendons à Olivier ce qui appartient
à lui. Quelle générosité d'un bout à l'autre.
Il a à la fois le volume de jeu et aussi l'intelligence de faire ce que fait Verratti et ce qui faisait Verratti surtout à l'époque où il était associé à Thiago Motta, c'est de plonger entre les lignes, de passer dans le dos des milieux de terrain adverses, de vraiment de faire le lion, de jouer verticalement.
Sera-t-il capable de le faire toute la saison? C'est la grande question parce qu'il démarre tellement fort.
Mais enfin je pense qu'il y a suffisamment de profondeur de banc pour le faire se reposer en championnat dans les matchs moins importants, mais vraiment ce qu'il a amené ce soir,
je suis pas sûr. En revanche peut-être qu'on s'accordera tous ensemble sur ce fait là. C'est rendu possible aussi parce qu'au milieu de terrain, t'as Marquinhos et t'as Verratti.
C'est vrai.
Et je trouve que c'est très complémentaire. Et voilà, tout simplement.
Ouais. Mais d'ailleurs,
c'est peut-être le plus complémentaire qu'ils aient eu de la décennie. Alors, on est content que ça fonctionne et on espère évidemment qu'aucun va se blesser durablement. parce que ça provoquerait des gros soucis. Quoi.
Je me souviens de Thomas Tuchel lorsqu'on était en Chine au Trophée des Champions et qui expliquait qu'il adore Marquinhos à ce poste-là.
Bien sûr.
Et il disait, mais Marquinhos préfère jouer en défense centrale.
Ça paraît tellement naturel
quand on
voit
jouer.
Mais
il disait, moi, j'essaye de le convaincre qu'il est excellent à ce poste et en plus, il lui rendait service parce que c'est vraiment...
Vous savez, Laurent Blanc a commencé numéro 10. Hein.
Oui, mais
il a terminé défenseur central. Marquinhos, qui commence quand même jouer arrière-droit au Brésil et à la Roma, et passer dans l'axe au PSG, peut finir numéro 6. S'il y a une grande qualité chez Marquinhos, c'est qu'il est intelligent.
Ouais.
C'est qu'il a un vrai volume de jeu. Il sait défendre parce que c'est un défenseur.
Et quand il est à ce poste-là, il le fait vraiment. Quoi.
Il a une intelligence de jeu dans son placement, dans ses premières relances, de se mettre systématiquement dos au jeu. Parce que quand on est défenseur central, on a tout le temps le jeu face à soi. 9 fois et demi sur 10. Quand on est numéro 6, on est beaucoup plus souvent de 3 quarts, voire de dos. Et ça ne demande pas les mêmes réflexes, ça ne demande pas les mêmes appuis, ça ne demande pas les mêmes circuits préférentiels. Et je trouve que depuis 6 mois, 8 mois, 1 an qu'il le fait, il le fait vraiment très bien.
Oui, on le voyait balayer le terrain, là, c'était très intéressant. Franck, pour terminer.
Oui, je voulais encore rebondir sur notre ami Idrissa Ganagay, lion de la Teranga. Je pense que ce pourquoi il fait l'unanimité auprès des supporters, du public, des observateurs et de ses coéquipiers, parce qu'on a vu les bisous qui pleuvaient, c'est sa disponibilité. C'est-à-dire, non seulement il va te gratter le ballon, il va te le donner. Et tu le disais pendant la rencontre qu'on regardait ensemble, eh bien, il est là, il est le premier à venir en soutien.
À amener une solution,
Il a cette disponibilité permanente. On se dit, il a combien de poumons, ce type-là, quoi. On espère que s'il fait le déplacement
Olivier
à Singapour, au mois d'octobre avec le Sénégal, on espère qu'il ne reviendra pas avec un virus parce qu'il est tellement important aujourd'hui, en l'espace de quelques jours, quoi, au PSG.
Alors, Olivier, passons maintenant qu'on a beaucoup parlé de ce Paris Saint-Germain qui, effectivement, avec son 3-0, eh bien, nous a enthousiasmés. Évoquons quand même le Real Madrid parce que c'était la grande d'équipe, alors celle qui l'année dernière s'était faite sortir en huitième de finale par l'Ajax, mais qui a un nombre incalculable, on s'en souvient, de trophées dans cette compétition. Et bien ce soir, cette équipe, on va y venir aussi, ces buts refusés, ces jolis gestes qu'il y a eu, mais quand même, le score est sévère. Et écoutons d'abord Zinedine Zidane qui explique qui concède que son équipe a manqué de ressort.
Sur 90 minutes, on ne s'est pas beaucoup créé d'occasion. Et c'est compliqué quand on ne se crée pas des occasions. C'est compliqué de gagner un adversaire comme Paris. Mais bon, il faut dire qu'ils ont été, meilleurs ce soir. Il n'y a rien à redire sur ça. Et nous, il va falloir qu'on se repose là maintenant et penser à notre prochain match. De toute façon, on continue à travailler et c'est que ça de toute façon pour nous. Continuer à travailler et essayer de faire mieux les choses la prochaine fois.
Alors un Zinedine Zidane un peu déconfit, Olivier Pron. Mais c'est vrai que il y a eu des buts refusés, racontez-nous. Mais il y a eu des jolis gestes du Real, mais trop peu.
Oui, un but refusé, le ballon était contrôlé de la main, donc il n'y a rien à redire. Et le deuxième, il était hors jeu, tout le stade l'avait vu. Il n'y a que l'arbitre de touche qui a mis 1h30 avant de lever son drapeau, mais personne n'y croyait. Il y a eu 3 frappes en première mi-temps et une tête de Benzema en deuxième. Quand le Real Madrid est mené 2-0 à la mi-temps et qu'en deuxième mi-temps, en tout et pour tout, il n'a qu'une tête de Benzema qui passe à 30 cm du but à nous proposer, c'est que ce Real Madrid-là va mal. 12 blessés, on l'a dit, depuis la reprise en juillet. Notamment en défense, Sergio Ramos n'est pas blessé mais il est suspendu. Marcelo n'était pas là non plus, il est blessé, donc c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'absence, mais quand même quoi, qu'est-ce qu'ils ont été incapables de produire. Ils étaient battus dans tous les domaines aujourd'hui, et encore une fois, 4 frappes ou 3 frappes et une tête en tout et pour tout en 90 minutes, alors que vous êtes quand même censé vous révolter à un moment ou un autre.
Franck,
on peut pas non plus minimiser l'absence du taulier, quoi, Sergio Ramos. On en disait le plus grand bien sur sa carrière il y a encore quelques jours.
Oui,
vous vous souvenez?
Mais on doit le redire.
C'est ça. Alors on le redit. C'est en l'absence d'un taulier comme ça, que vous voyez
on sent
les difficultés parce que Varane, Militao, c'était pas génialissime. C'était du retard.
Ouais.
Tu sentais des gars qui étaient totalement largués. T'avais l'impression d'assister à la défense de l'AS Monaco en ce moment, pour dire. T'as quand même un champion du monde et à côté un gars qui est arrivé il y a pas longtemps où on nous disait,
c'est
l'intersaison et attention, c'est du solide. Il y avait rien. Sans Sergio Ramos, sans Marcelo, effectivement, dans un autre registre. C'est une équipe qui tourne, sans Modric, depuis un peu plus longtemps. C'est une équipe qui tourne, qui est déséquilibrée, qui tourne à l'ordinaire.
Est-ce que c'est inquiétant d'ailleurs pour ce Real?
Oui, c'est inquiétant parce qu'on connaît
toutes les critiques qu'il y a en ce moment,
les victoires en championnat,
ce qui est dubitatif aussi, c'est les choix de Zidane.
Oui, bah alors après, là, c'est plus compliqué si on se passe.
Je crois qu'il n'avait pas de milieu de terrain sur le banc, là.
Non, je crois pas. Mais du c'est. Tout. Non, parce que par Kovacic, Llorente, ouais, Ruy Guyane, tout le monde
voilà.
est parti.
Voilà, voilà, t'as personne.
Ce qui est terrible, au-delà des erreurs défensives, c'est vrai que Franck le dit, Militao, Ramos, c'est le jour et la nuit, c'est pas faisable. Sur le premier but, normalement, il doit sortir très vite sur.
Courtois, Di Maria. Courtois aussi.
Bon. Moi, ce qui me choque sur ce match, ce qui est terrible, et surtout que le PSG, dans son registre, lui, l'a très bien fait, c'est l'absence de pressing, l'absence de mouvement au milieu. J'ai vu à la fois un Real Madrid, ça c'est une vraie performance pour le coup, à la fois être statique, avec des joueurs qui ne bougent pas, qui ne pressent pas, mais qui à la fois laissent des espaces terribles derrière eux. Ganagay en a profité, Verratti en a profité. J'ai vu un milieu de terrain balayé, battu. Et on ne parle pas des milieux de terrain, ce n'est pas des gamins de 20 ans qui découvrent la Ligue des Champions. C'est Kroos et Casemiro, ils ont 4 Ligues des Champions, les mecs. Ils ont été archi battus. Manque de mouvement, manque d'intensité. Ouais. Ils ont été privés de ballon.
Rythme, intensité. Ce que met un gars comme Ganagay. Lui, il apporte ça au PSG.
Et ce qui est terrible, c'est que je vois la même chose en championnat. Même s'il y a une victoire contre Levante, je vois un Real Madrid à la peine, sans idée, flasque, mou, où Benzema court un peu partout devant, essaye de jouer en remise, mais il ne peut pas tout faire. Je vois Gareth Bale un peu en mouvement, mais il ne peut pas tout faire non plus. Et on a une équipe finalement qui commence à être assez coupée en deux. Entre une attaque qui a des bons joueurs, Bale fait un bon début de saison, Benzema fait un bon début de saison. Quand Ramos est là derrière, ça veut dire que ça tient un petit peu. Mais au milieu, il n'y a plus rien. Ce qui a fait le sel du Real Madrid sur ses 3 victoires en Ligue des Champions, c'est-à-dire un vrai milieu de terrain disponible où chacun compensait le travail de l'autre, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ils ont absolument disparu.
Mais c'est une équipe dont on a le sentiment qu'il n'a pas commencé véritablement sa saison. Et tant mieux que le Paris Saint-Germain effectivement et donner cette démonstration collective et les a mis devant leur je dirais ces immenses difficultés quoi. On attendait qu'un Benzema prenne ce rôle de leader qu'il occupe en championnat. C'est lui qui les a conduits à la victoire contre Levante, mais là il s'est éteint.
Les gars, on attend aussi Eden Hazard qui a un cours de forme, qui fait plus la différence, qui a plus le coup de rein.
Il a les formes, mais
essaye,
pas la forme.
Mais qui a pas 90 minutes. Ça aussi, c'est quand même un vrai problème. Effectivement, on a vu une équipe sans milieu de terrain et encore une fois subir un pressing sans aucune révolte. Ils étaient battus dans tous les domaines. Même si le Paris Saint-Germain fait un énorme match, le Real passe au travers véritablement.
Pour terminer, Olivier, juste un petit mot sur l'ambiance du Paris Saint-Germain. On entendait, ça a beaucoup, beaucoup chanté dans ce stade qui affichait complet.
Bah dites donc, la dernière fois qu'ils avaient vu un match de Ligue des Champions, ils s'étaient pris un sacré pion avec ce but, ce pénalty de Manchester United. C'est ça aussi, faut le rappeler. Cette victoire-là, elle va permettre de tirer une croix. Ils n'oublieront pas, mais au moins ça tire une croix sur cet affront qu'ils avaient subi encore une fois en mars avec cette élimination et cette nouvelle remontada subie. Voilà, ils repartent sur de bonnes bases. Ils en avaient beaucoup parlé ces derniers jours de Manchester United. Là, cette fois, ils vont pouvoir parler du Real. C'est une bonne base. Et c'est vrai que le parc, forcément, il ne demande que ça, de se réjouir de voir cette équipe. On ne sait pas ce que ça aurait donné avec Mbappé, avec Neymar. On verra ce que ça donnera. Ce qu'il y a de sûr, c'est que Paris a du banc. Paris a un gros effectif et l'a montré ce soir. Et le parc s'en est à juste titre réjoui.
Merci beaucoup, Olivier Pron, d'avoir été en direct avec nous dans cette deuxième édition de Radio Foot International. Bon retour du parc à la radio.
On va essayer. On va aller voir s'ils sont un peu plus causants que l'année dernière dans la victoire la défaite, mais là c'est dans la victoire.
Avec le sourire.
On espère qu'on croisera Idrissa Ganagay.
Ça sera super.
D'accord. Merci beaucoup, Olivier Pron. Nous, on continue. Un autre des beaux matchs de la soirée sur laquelle on avait jeté un œil en même temps que sur le Paris Saint-Germain, c'était ce match au stade Metropolitano de Madrid entre les Colchoneros et la Vieille Dame, cet Atlético Madrid face à la Juventus Turin. Et on a eu 4 buts, 2 de chaque côté, Cuadrado et Matuidi qui ont commencé par inscrire des buts pour les visiteurs, pour la Juventus, et puis Savic et surtout Herrera qui marque le but de l'égalisation. Alors on a vu, c'était du Simeone pour revenir. Ils reviennent à la 88e ou 89e minute.
Ils sont revenus à la manière de l'Atlético.
Voilà.
C'est un peu ça, à la rage, à la
rage.
C'est
l'ADN de cette équipe.
L'ADN du club, de l'entraîneur. Non, écoutez, moi je vais vous dire, on a vu une première mi-temps où l'Atlético est le pied sur le ballon, où Joao Félix s'est procuré une occasion assez merveilleuse.
Ouais, s'ils sont devant, tu te dis, c'est logique.
C'est logique. Et puis, à partir du moment où Cuadrado a mis un but magnifique en deuxième mi-temps, ça s'est décanté. La Juve s'est mise à jouer peut-être en contre, beaucoup plus en contre, et l'Atlético, lui, s'est servi des coups de pied arrêtés. Moi, je suis assez surpris toujours de voir la Juve comme ça, avec qui a autant de qualité, démarrer avec trois milieux défensifs. Parce que Pjanic, Khedira, Matuidi, à un moment donné, c'est quand même pas des joueurs qui portent le ballon. Moi, je suis toujours un peu surpris quand il y a suffisamment de qualité à la Juve. Mais force est de constater qu'ils ont quasi fait le casse du siècle là-bas, à l'Atlético, parce qu'ils ont vraiment, tant qu'ils ont mené 2-0, ils avaient vraiment toutes les cartes en main, avec un Ronaldo disponible, avec un Higuain que j'ai vu pas mal courir. Mais l'Atlético, on les connaît, à domicile, ils ont la grinta, ils ont la rage, c'est du Simeone, et en plus ils sont forts sur coup de pied arrêté, ils prennent tous les ballons de la tête. Voilà, ils arrivent à arracher le nul. Ils auraient même pu obtenir un péno parce qu'il y a une main de Bonucci en fin de match et qui aurait pu être sifflée avec d'autres arbitres. Mm-hmm. Bon voilà, c'était un match quand même très intéressant.
Franck.
Ouais, c'est souvent spectaculaire avec les Colchonero, et on l'a vu déjà il y a quelques journées de ça en tout début de championnat, où ils avaient réussi ce coup parfait avec un but dans le temps additionnel de Thomas Partey justement.
Ça leur ressemble
et en fait on n'est pas surpris de leur si vous voulez de la façon dont ils reviennent dans le match. Ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est, et ça devient un petit peu récurrent ces derniers temps, c'est ces débuts de ces moments où ils flottent, quoi. Et contre la Juve, moi j'ai vraiment cru que voilà, s'ils prennent un troisième, c'est terminé, c'est foutu. Et là ils ont trouvé effectivement le moyen de réagir. Tu parlais de Cristiano Ronaldo, j'ai pas eu le sentiment de le voir tant que ça finalement.
Il a pris beaucoup, moi je l'ai vu vraiment faire beaucoup d'appels, il a pris pas mal de ballons de la tête. Après, il a quand même été moyennement servi dans les pieds, mais était toujours bien gardé. Hein.
C'est le problème, c'est surveillé.
L'Atlético, on a des chiens de garde Cristiano.
Il leur a tellement fait des misères au match retour l'année dernière que, si vous voulez, ils en avaient mis deux sur lui. Donc,
du coup, on a vu briller d'autres, et le but de Cuadrado, c'est une symphonie.
Attends, le but de Matuidi, exceptionnel. Le centre d'Alexandro,
magnifique.
Est-ce
qu'on savait qu'il pouvait mettre des buts de la tête, Matuidi?
Écoute, on vient de l'apprendre.
En plongeant.
Non, mais vraiment, c'est la Juve vraiment a fait le match quasi parfait, parce que et dans la tactique et dans l'efficacité, ils ont été très bons. Après voilà, sur coup de pied arrêté, moi je veux bien que De Ligt et Bonucci sont très forts au sol, très très forts au sol, ça lit bien le jeu, c'est des vrais, ils gèrent bien la profondeur. Dans l'agressivité, sur les coups de pied arrêtés, même dans le vice, je trouve surtout De Ligt, il manque encore un peu de métier, un peu d'expérience.
Depuis le début de la saison, il est en difficulté.
Après, il a franchi un cap. Hein. Tu passes de l'Ajax à la Juve, c'est pas la même chose.
À 20 ans ou 21 ans,
L'Ajax à l'Ajax, alors on va dire avec le PSV, ils font ce qu'ils veulent.
Mais c'est mieux maintenant, en phase de poule.
Oui, vaut mieux maintenant qu'en huitième ou en quart de finale. Mais c'est vrai que, ce qui fait d'autant plaisir en plus, c'est que l'Atlético à 2-0, ils auraient pu se dire, bon, celui-là, on le laisse passer, mais à la rigueur, on l'a perdu, il en reste d'autres. Ils n'ont rien lâché.
Ah, surtout avec rien. Papa Simeone, c'est
ils
impossible.
Ils peuvent pas lâcher. Sinon, ils se font incendier.
Mais je pense qu'on a, on a regardé ces deux rencontres ensemble, celle du Paris Saint-Germain et celle qu'on évoque maintenant avec João Félix. C'est un super talent, et moi j'aurais vraiment aimé de le voir marquer ce but, quoi.
S'il le met ce soir, c'est top but.
Ouais, c'est un truc incroyable. Il part de son propre camp, dans le rond central, il traverse tout le terrain. Il y a la course croisée justement de Diego Costa qui est à l'origine du truc. On se dit il fait un appel, mais c'est pour le servir. Et lui, on se dit il est cramé à ce moment-là. Il est au milieu de quatre joueurs et il arrive quand même, sorte de pointard, à frapper, et il oblige en fait
Chesney à se coucher.
Ouais. Ah ouais, à se coucher. Et c'est ça. Il a un petit côté génial, ce João Félix. Et je l'avais vu en championnat vraiment briller, bien s'entendre avec Diego Costa. Et je pense que ça va aller de mieux en mieux.
Il a même un gros côté génial, João Félix. Le seul problème, c'est qu'il fait 40 kilos.
Mais
c'est surtout
un bambin, quoi, pour la Ligue des Champions, pour l'instant.
Il a un peu la morphologie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Alejandro, c'est qu'il a un peu la morphologie de Griezmann quand il est arrivé de la Real Sociedad. Il est fin, il est menu, au Portugal, on joue pas comme à l'Atlético.
Après, tu peux t'endurcir,
Donc il est dans la bonne équipe parce que Simeone, le foncier, il les fait bosser.
Il va arriver
dans dans une équipe où le volume de jeu a une place importante dans la stratégie de l'équipe, donc il va un peu se muscler. Et puis il est à la bonne école parce qu'il y a quand même Diego Costa à côté de lui. Il y a Thomas Partey, Coquet derrière lui. Donc voilà, on va dire qu'il est bien entouré pour progresser dans ce domaine-là.
Mais ça va être un garçon qu'on va certainement retrouver tout du long de la phase de poule. On espère plus longtemps encore. Hein. Mm-hmm. Et il a quelque chose effectivement qu'on retrouve pas dans tous les matchs. Je me souviens, on en avait parlé la saison dernière en particulier. Mm-hmm. Mais moi, j'ai envie vraiment de le revoir faire des trucs comme ça.
Et puis en Ligue des Champions. Hein.
Vous savez, Annie, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de faire presque un coast-to-coast. Hein. Mm-hmm. Lui, on se dit, il en est capable, mais effectivement, il est un peu fluet.
On verra ça donc. À noter dans ce groupe, la victoire du Lokomotiv Moscou à Leverkusen face au Bayern.
Avec un but Krikoviak.
Krikoviak.
Le retour.
Tiens,
notre camarade Dominique Severac qui en disait beaucoup de bien cet après-midi. Et ben voilà. Il a dû entendre Dominique Severac, il a mis un but.
Il s'est dit, je vais lui faire un petit clin d'œil à Dominique Severac. Voilà donc pour ce qui est surprenante, peut-être défaite pour un club allemand. Et en même temps, David Lortolari nous disait aussi que c'était une équipe qui, en début de championnat, avait bien du mal. On continue. Il y a eu, on va aller vers les matchs, du début de soirée, parce qu'il y a deux matchs à 18h55. Eh bien, allons du côté du Pirée, l'Olympiakos à Athènes, qui a là aussi réussi à arracher un match nul face à Tottenham.
Harry, goal machine Kane, face à Josessa. Harry Kane, il ne tremble pas et il éteint le volcan du Karaiskakis. Tottenham contre le cours du jeu peut respirer. Lucas, il y a de l'espace pour Lucas. Lucas Moura, deux frappes, deux buts.
Allez, Mathieu Valbuena,
bien joué, bien joué. C'est de la passe pour Podence. Podence, enfin récompensé. Les joueurs de l'Olympiakos, première éruption du Karaiskakis. Valbuena, que rêver le mieux pour fêter son centième match européen, un but et une passe D, et surtout ramener l'Olympiakos à hauteur du finaliste de la Ligue des Champions.
On a retrouvé l'éternel Valbuena, l'éternel Marseillais, Mathieu Valbuena, qui joue désormais sous le maillot de l'Olympiakos et qui a marqué ce pénalty pour égaliser. Vous aviez jeté un coup d'œil à ce match aussi.
Tottenham peut s'en vouloir parce que sincèrement, il avait les clés du match. Il menait 2-0. D'ailleurs, il y a eu un but magnifique de Lucas, l'ancien Parisien. Et puis, ils ont fait du Tottenham, même en championnat, ils le font. Et que dès qu'ils ont le match en main et qu'ils ont 2-3 buts d'avance, ils se relâchent. Et progressivement, l'Olympiakos est revenu. La Ligue des Champions, c'est pas le championnat. On a un peu coutume, on a envie de dire, il n'y a pas de petite équipe, mais ils l'ont encore montré. Et vous parlez du pénalty de Valbuena, moi j'ai surtout aimé le match du Portugais Potence, qui a quitté le Sporting Lisbonne un peu contrarié en 2018, qui est arrivé en Grèce un peu, personne ne le connaissait, on ne savait pas trop ce qu'il valait. Je trouve qu'il fait un vrai beau début de saison, il est bon ce joueur, il ne fait pas tout bien, mais il a des vraies fulgurances de talent. Il était très bon aujourd'hui, Valbuena également. Donc voilà, c'est deux points de perdu pour Tottenham. C'est pas rédhibitoire. Moi, je me rappelle qu'à la fin de la phase d'aller la saison dernière, ils étaient éliminés parce qu'ils avaient perdu contre Barcelone, ils avaient perdu contre l'Inter. On savait pas bien ce qu'ils allaient faire. Puis finalement, ils vont en finale. Donc évidemment, on les condamne pas tout de suite, mais c'est dommage. C'est dommage quand vous êtes dans la Ligue des Champions, c'est très dur. Toutes les équipes jouent cher leur peau. Perdre deux points comme ça quand vous avez le match en main, c'est vraiment dommage.
Franck.
Pas mieux. C'est vrai que on a l'impression qu'ils sont coutumiers des fêtes, les Spurs. Après, on sait aussi, enfin, je n'invente rien, on sait toute la difficulté pour les adversaires de se rendre en Grèce. C'est quand même pas simple, il y a un contexte. Et tant mieux d'ailleurs.
Partie de ces stades, hein, où
mais
quand
c'est
on
pas,
va ouais, jouer,
mais c'est pas une vue de l'esprit.
Ambiance. Oui,
voilà, c'est pas une vue de l'esprit. Quand vous arrivez là-bas, que vous soyez supporter, que vous soyez joueur, dirigeant ou média, vous dites, il se passe quelque chose, vous en prenez plein les oreilles. Et sur le terrain, c'est une équipe, qui ne lâche jamais rien. Ils ont la chance quand même d'avoir, Naïm a évoqué le jeune talent portugais. Ils ont quand même des joueurs avec quand même un petit peu de bouteille aussi. Et ça aide face à une équipe qui a peut-être aussi un petit complexe aussi. Ouais, tu vois, on est finaliste. Alors bon, voilà, ils sont arrivés sans doute un petit peu avec du sable dans les espadrilles en se disant ça va bien se passer, on est au Pirée, on va se balader avant. Ben non, c'est pas comme ça, quoi. Et ça, tu l'as dit, ça va. Ils vont avoir à lutter dans ce groupe qui est finalement peut-être plus compliqué que prévu.
Dans le même groupe, il y a le Bayern Munich et l'Étoile Rouge de Belgrade. Eh bien, le Bayern Munich fait partie de ces équipes qui ce soir ont mis trois buts contre donc cette Étoile Rouge. On a un but de
Coman, de Lewandowski et de Müller dans les arrêts de jeu.
Exactement. Donc les buteurs étaient là. Le premier match de la soirée, en même temps que cet Olympiakos Tottenham, c'était Bruges Galatasaray, deux équipes importantes pour le Paris Saint-Germain puisqu'elles sont dans le même groupe, ces deux équipes. Eh bien 0-0. Alors ça peut avoir aidé finalement un peu le Real Madrid.
Ça les plombe pas. Je croyais que vous alliez évoquer tous nos amis africains qui étaient si nombreux sur le terrain. Mm-hmm. Et il y en avait une dizaine.
Mm-hmm. Moi, je pense à Falcao sud-américain.
Oui, forcément. Mais je pensais que vous alliez évoquer tous les copains de toute cette colonie africaine qu'il y a du côté du club Bruges, avec notamment il y a Crépin Diata, le Sénégalais qui nous avait tant enchanté, Simon Deli, l'Ivoirien, Okereke qui est arrivé de la Spezia de Serie B, qui joue en pointe. Il y a Mbaye Diagne qui est sur le banc. Vous avez Percy Tau qui a été prêté par Brighton & Hove pour la deuxième saison de suite. Il était en D2 à l'Union Saint-Gilles belge, et là il se retrouve au club Bruges, c'est quand même pas mal,
et en Ligue des Champions,
et puis en face à Galatasaray, les Ferrouli, Mario Lemina, bien sûr Louis Ndama,
c'était la Ligue des Champions d'Afrique.
Ils ont un vrai coup à jouer pour la Ligue Europa, ceci dit, parce que quand on les voit jouer comme ça, bon, on se dit que Galatasaray a vraiment pas beaucoup plus d'arguments que ce qu'il a montré aujourd'hui.
Mais t'as vu qu'ils sont en grosse difficulté en championnat, ils se baladent pas quand même. Hein.
Ouais, mais ils souffrent. Ils se baladent plus.
Et du coup, en Ligue des Champions, tu vois qu'effectivement, ils sont.
Mais c'est une équipe qui est quand même. Ils font Falcao, même si c'est plus le Falcao d'il y a 5-6 ans, ils sont quand même capables. Ils ont fait Nzonzi qui est champion du monde. Ils sont quand même toujours capables d'attirer des gros joueurs. Et moi, je trouve que par rapport aux joueurs qu'ils ont, le jeu est jamais vraiment au rendez-vous.
Et là-bas, c'est chaud aussi, hein, Galatasaray. Aller jouer dans ce stade.
Là, c'était au Jan Vrijdel. C'était en Belgique. C'était même s'ils savent mettre des ambiances. Mais on verra effectivement. Le match en Turquie, et je pense que ça sera une autre opposition, mais sur ce qu'a montré le Paris Saint-Germain, il n'y a pas photo, quoi.
Alors dans mes groupes, on disait qu'il y a le Paris Saint-Germain, et bien on va écouter Idrissa Ganagay, parce que David Finzel veille et il a donc parlé à nos confrères d'RMC, et donc on va l'écouter.
Jouer mon rôle aujourd'hui comme je l'ai toujours fait depuis que je joue au foot. Partout où je suis passé, j'ai toujours été comme ça. J'essaie toujours d'aider mon équipe. Après, voilà, on a joué en équipe aujourd'hui. C'était important de gagner ce match. On a su travailler ensemble, faire ce qu'il faut, respecter les consignes du coach. Et c'était important de bien commencer cette compétition. On ne peut pas donner les clés de notre match parce que il y aura un match retour. Donc voilà, on va continuer de travailler. Le plus important pour moi, c'est d'être sur le terrain et d'aider l'équipe. Après, que je joue plus haut ou en sentinelle, il n'y a pas de problème pour moi. Voilà, j'ai commencé en relayeur et après, quand Marc est sorti, j'ai reculé et j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais faire sur le terrain. Après, voilà, ça a marché aujourd'hui.
Le bon élève Idrissa Ganagay.
Des Djambars, c'est le bon élève des Djambars.
N'est-ce pas?
Saher Sek, Jimmy Adjovi-Boko, voilà, c'est grâce à eux. Et il n'est pas
filiation.
Le seul. Voilà, il y a une filiation, il y a une intelligence. Il y a l'homme qui est intelligent joueur. Et voilà, ça s'entend. Puis le joueur, naturellement, c'est génial ce qu'il raconte, quoi. Je ne vais pas vous donner les clés du match, quoi. Il attendait peut-être à ce que.
Presque voilà. Naïf.
Ouais, ouais. Mais c'est ça. Et il va avoir bientôt 30 ans. On a envie de l'apprécier encore très longtemps.
Très chouette. Merci donc à David Finzel. Et puis signalons aussi l'Atalanta, c'était sa grande entrée sur le territoire européen, laminé par le Dynamo Zagreb 4-0, le club italien. Dans le même groupe, Manchester City a bien commencé pour l'instant en territoire ukrainien, Shakhtar Donetsk 3-0
avec du Riyad Mahrez. Avec du bon Riyad Mahrez.
Un but et une passe D, ouais.
Ça va.
Avec aussi du Agüero, si je ne me trompe pas.
Et du Gundogan et Gabriel Jesus.
Et du Gundogan,
pardon. Allons faire un petit tour du côté d'une autre compétition européenne, elle aussi, et ça sera demain. Eh bien, c'est la Ligue Europa Rennes, l'équipe dont on a beaucoup parlé et qu'on a suivi l'année dernière avec ses belles prestations. Eh bien, même en début du mois d'août, n'est-ce pas, hein, ils ont aussi fait un petit coup au Paris Saint-Germain en leur infligeant d'entrée une défaite en championnat. Eh bien, ce stade rennais reçoit demain, dans son Roazhon Park, qui est là aussi assez chaud, dans l'ouest de la France, le Celtic Glasgow. L'entraîneur des Rennais, Julien Stéphan, promet déjà du spectacle.
C'est une très très bonne équipe. On sait que ça va être un adversaire redoutable. Je ne suis pas de devin, donc je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. Mais ce que je peux vous promettre, c'est que le groupe a envie de générer autant d'émotions que la saison dernière. Ensuite, les résultats, on ne peut pas les prévoir. Mais... vous pouvez compter sur nous pour, en tout cas, nous engager au maximum dans cette compétition. Voilà, je pense que ça sera une ambiance extraordinaire. Espérons que ça puisse galvaniser tout le monde et qu'on ait un spectacle sur le terrain à la hauteur de ce qui va se passer dans les tribunes. Mais ça aussi, je pense que ça sera le cas.
Julien Stéphan, qui n'est pas devin en terre celte, hein, n'est-ce pas ? C'est assez amusant. En tout cas, c'est...
Ils n'arrêtent pas avec ces matchs celtes. Hein. Ils avaient le derby contre Brest.
Contre Brest.
Il y a pas...
ouais. Là, ils enchaînent avec...
un peu... Bon, on espère que la VAR fonctionnera. Franck Simon, alors évidemment, malheureusement, le Celtic a perdu de sa superbe. Et d'ailleurs, on le voyait plutôt en Ligue des Champions ces derniers temps. Ouais. Ils n'ont pas passé les barrages, hein, signalons-le. Mais ça peut être une belle affiche.
Mais ça reste une... De toute façon, quand on aime le football, on aime les ambiances...
Bah, c'était là qu'était Moussa Dembélé, je ne me trompe pas, hein, il n'y a pas si longtemps.
On a eu Timothy Weah aussi qui a fait un passage.
On se souvient qu'ils ont fait des misères, eux, quand ils recevaient le Barça, hein, je me souviens.
Exactement.
Et ils ont, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble qu'ils ont récupéré à l'intersaison un garçon qui est devenu international avec le Nigeria il y a peu de temps, qui s'appelle Joe Erebo, je crois. Qui est monté en championship avec son club, qui a été tout de suite transféré. Ça va être, je pense, un des gars qui risque de briller et de faire du mal au Stade Rennais. Mais c'est un match avec une équipe qui, rappelons-le, est dauphine du Paris Saint-Germain.
Mais oui. Ils ont battu le PSG.
Ils ont battu le PSG. Ils sont dauphins. Donc, a priori, on se dit, ils aiment le parfum de l'Europe. Ils aiment le goût de l'Europe. Ils ont de quoi affronter. Puis en face, c'est une équipe qui se balade aussi. Hein.
Et puis disons-le clairement, Rennes, c'est quand même l'équipe qui est à la mode en France depuis 6 mois. Quoi. C'est une équipe qui a un entraîneur brillant, qui a offert une épopée européenne
Quel joueur du mois passé aussi.
Quel joueur du mois, là, comme Avinga, qui a globalement un très bon effectif, parce que Grenier, Mbanyang et compagnie, Bourigo, ça reste des super joueurs. Ils ont battu le PSG en début de saison.
Bah, ils ont gagné la Coupe de France. Hein.
C'est une équipe que tout le monde regarde. Ils ont le vent dans le dos. Ils sont bien recrutés. Ils font un très bon début de saison. Puis ils sont quand même dans un groupe avec Cluj et la Lazio Rome, ça veut dire que mine de rien, faut tout gagner à domicile et ça commence demain. C'est qu'en fait, ils ont déjà pas le droit à l'erreur.
Mais c'est quand même leur Everest demain, je pense.
Ah, je pense qu'il faudra aller à la Lazio quand même. Hein. Ouais. Il faudra aller à la Lazio, ça sera très compliqué. Ils peuvent le faire. Moi, je pense qu'ils sont armés pour sortir de la poule. Ouais. Ils ont même du talent parce que techniquement, Mbanyang, Kamavinga, Bourigo, Grenier, Johansson, c'est des garçons qui ont des vraies qualités. Donc, ils peuvent sortir de leur poule. Par contre, il faut pas se rater. En fait, ça passe par une victoire impérative demain. Il faut tout gagner à domicile et aller faire un résultat à l'extérieur. Moi, je pense qu'ils pourront aller le faire à Cluj, mais il faut tout gagner et il faut tout gagner demain.
Saint-Étienne qui se rendra en Belgique, une histoire belge pour eux, et ça sera contre la Gantoise. Là aussi, on va retrouver quelques corps légionnaires, non, Franck?
Certainement, mais là, je suis un peu plus mesuré concernant les Verts, même si eux aussi aiment l'Europe.
Ils sont inquiétants au début de championnat.
Ouais, franchement. Ouais. Je suis pas persuadé qu'ils aillent se balader là-bas.
Non,
quoi, hein.
Non. Et puis la Gantoise, c'est une équipe qui est difficile à jouer depuis quelques saisons. C'est une équipe
qui a joué des clubs français.
Qui a joué des clubs français, qui avait joué Lyon il y a 2-3 ans, Ligue des Champions, qui leur avait fait des misères. C'est une équipe qui recrute toujours bien, qui est difficile à jouer. Et puis le groupe est compliqué parce qu'il y aura Wolfsburg, il y aura Alexandria, et Dieu sait que les déplacements là-bas dans les pays de l'Est au mois de novembre-décembre, c'est difficile. Donc voilà, Saint-Étienne en ce moment, ils sont dans une situation compliquée.
Peut-être que ça peut les aider à... Peut-être qu'avec l'Europe, ça peut les aider à se relancer, à se rebecter, quitte à ne pas forcément aller très loin.
Je pense qu'ils ont pas une mauvaise équipe. Il y a suffisamment de talent pour jouer le haut de tableau. Je suis pas inquiet là-dessus. Je suis pas sûr que Ghislain Printemps soit l'entraîneur qu'il faille à cette équipe pour que ça dure toute l'année. Donc voilà, on va dire que
ça va au-delà de ton constat, ça va au-delà même de cette opposition européenne.
Ah quoi, oui, mais ça, c'est interrogation, c'est un constat qui est antérieur au match de demain.
Avec ce match.
Ça sera difficile pour Saint-Etienne, plus que pour Rennes.
Pour terminer, deux petites informations. D'abord, le Wydad Casablanca qui ne se résigne pas. Hein. Le club marocain qui avait été déclaré perdant de la finale retour
par forfait de la finale de la Ligue des Champions d'Afrique, eh bien, a décidé de porter l'affaire de nouveau, de faire un recours hein, depuis que l'Espérance de Tunis avait été confortée dans son titre. Et puis à noter aussi que la Coupe de la Ligue en France disparaît. La décision a été prise ce matin. La compétition, alors aussi joli trophée, on peut dire que la compétition n'était pas passionnante, mais c'est vrai que le trophée était plutôt joli.
Ça rapportait de l'argent.
Ah, ouais. Alors ça rapportait de l'argent à la Ligue, mais il y avait de moins en moins de place pour cette compétition qui était un peu bancale, qui se disputait en début d'année, et finalement elle avait perdu surtout les droits.
Sauf pour l'OM,
télé.
Il y avait que l'OM que ça intéressait, j'ai l'impression.
PSG aussi ces derniers temps, du coup ils auront eu un titre en moins. En tout cas, la Coupe de la Ligue, donc en fin de saison, après cette saison, eh bien, n'existera plus.
Saluons que ça ouvre une place qualificative pour l'Europe supplémentaire via le championnat.
Ça, c'est intéressant.
C'est ça, c'est bien. Intéressant. Merci beaucoup, messieurs. Merci aussi au maestro, à Laurent Salerno. Et merci beaucoup à David Fizel. On vous dit à demain, fidèlement, on sera là.